Vous écoutez
RMC.
Vendredi 15 mai,
l'info sur RMC.
Merci d'être là le matin avec nous. Il est 7h, Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour à tous. 900 millions d'euros distribués aujourd'hui aux plus démunis. Une aide exceptionnelle qui avait été promise il y a un mois par le gouvernement. 4 millions de foyers sont concernés. Vacances d'été, feu vert pour les réservations. L'horizon s'élargit pour les Français, s'éclaircit pour les professionnels du tourisme. Les billets pour l'été sont en vente aujourd'hui à la SNCF. Et puis les restaurateurs situés en zone verte pourront rouvrir leur établissement dans 18 jours sous conditions sanitaires très strictes, 4 mètres carrés par client, impossible à appliquer pour beaucoup. Bienvenue à tous sur RMC. La caisse d'allocation familiale va attribuer à partir d'aujourd'hui une aide exceptionnelle de solidarité versée en une seule fois. Elle s'adresse aux familles et aux personnes les plus modestes. 4 millions de foyers sont concernés, 150 euros auxquels s'ajoutent 100 euros par enfant à charge âgé de moins de 20 ans. Un coup de pouce plus qu'attendu. Le reportage de Marie Monnier et Benoît Ballet à Mulhouse et Strasbourg.
Faïz touche le RSA depuis 2 mois. Retoucheur dans une usine automobile, il a perdu son emploi à cause de la pandémie.
Le travail, plus de nouvelles. RAS, quoi, ça veut dire... J'essaie même de les recontacter, répondent pas, rien du tout, tout s'est arrêté.
Depuis, il a recours à la banque alimentaire pour manger à sa faim et vivre dignement. Faïz a déjà postulé pour un nouvel emploi en tant qu'agent d'entretien. En attendant, cette aide de 150 euros, c'est une bouffée d'air frais pour ce jeune de 33 ans.
Il faut en profiter de se dire qu'avec cet argent-là, on peut faire un peu de course, on peut aller voir des amis et puis manger un morceau, discuter, rigoler. C'est bénéfique, ça va m'aider un peu à sentir moins la douleur.
Claude Gavary est membre du secrétariat départemental du Secours populaire du Bas-Rhin. Elle reste inquiète pour l'avenir de ses foyers les plus modestes.
Sincèrement, je ne vois pas ce qui, dans l'immédiat, va améliorer la situation de ces gens-là. Ils ne vont pas retrouver, ou très peu vont retrouver un emploi. C'est vraiment des gens qui en ont besoin. Voilà. Le problème, c'est qu'il y en aura de plus en plus, certainement, dans les temps qui viennent.
Pour les accompagner, les boutiques solidaires du Secours populaire de Strasbourg doivent d'ailleurs rouvrir début juin.
Oui, et Christelle Dubos. Pardon, je vous coupe. Christelle Dubos, qui est secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, qui s'occupe des solidarités, sera avec nous. Parce que j'ai quelques précisions à lui poser, quelques questions à lui poser. Les 150 euros, c'est par foyer ou par personne? Et nous allons en parler, 150 euros d'aide. Dans un instant, juste après votre journal.
Un plan sans précédent, 18 milliards d'euros d'engagement pour aider le tourisme à se relever, annoncière du Premier ministre Édouard Philippe. Les Français pourront partir en vacances en juillet et en août. Martin Bourdin.
Relancer les réservations, c'est le meilleur moyen trouvé par les acteurs du tourisme pour savoir à quoi va ressembler cette saison estivale. Les annonces n'ont donc pas traîné après le discours d'Édouard Philippe. Le meilleur exemple, c'est la SNCF qui a très vite indiqué que les billets de train pour les mois de juillet et août seront ouverts à la réservation à partir de ce matin. Et pour inciter les voyageurs à prévoir leurs vacances dès maintenant, les conditions d'annulation sont assouplies. Vous pourrez échanger votre billet ou obtenir un remboursement sans frais si vous ne pouvez finalement pas prendre le train à cause du Covid-19. Les hôteliers et les gîtes de France donne les mêmes garanties pour les réservations de cet été. Il faut que les gens aient envie de partir, précise l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Difficile, en revanche, de prévoir des vacances dans les dom-toms dès maintenant. Air France réfléchit encore au planning des vols à destination de l'outre-mer pour cet été.
Avoir envie de partir, peu de doute quant à la réponse. Ceux que nous avons interrogés ne pensent justement qu'à une chose, voir du pays.
Se poser la question de faire un séjour en montagne plus qu'à la mer, parce qu'on a un peu peur d'avoir trop de monde sur les plages cet été, du coup. Mais on n'a pas encore vraiment décidé ni réservé.
Je n'avais pas encore réservé, mais on va y penser, du coup. Bah, en général, on reste en France, nous, en été. Donc on va probablement aller à l'océan, comme d'habitude, dans les Landes. Ça me donne envie et je pense qu'on va penser à nos réservations d'ici peu, ouais.
Ça nous a conforté dans le fait de partir. On a la chance d'avoir de la famille en Corse, donc je pense qu'on va réserver le bateau et on partira dans notre maison là-bas. Très très bien, on va pouvoir retrouver la famille, ça nous a manqué, donc on est très contents.
Les ressortissants espagnols devront se soumettre à une quarantaine stricte s'ils arrivent sur le sol français, annonce de l'Élysée qui fait écho en fait à la décision de Madrid d'imposer ce même genre de quarantaine à tous les étrangers, y compris à ceux en provenance de l'Union européenne. Autre mesure annoncée hier, la réouverture des bars et des restaurants dans les départements classés verts, date fixée au 2 juin prochain. Évidemment, si la situation sanitaire le permet, les professionnels comptent les jours, même s'ils appréhendent les mesures sanitaires donc à appliquer. 4 mètres carrés par client, impossible à mettre en place, selon Roland Aigui, le président confédéral de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
On sait qu'entre 15 et 20% des entreprises aujourd'hui avaient le protocole qui a été présenté, ne vont pas pouvoir ouvrir. On ne pourra pas, on ne peut pas imaginer qu'une salle de restaurant qui avait 50 couverts, on puisse passer à 15 couverts. Parce que là, la notion de la rentabilité va être remise en question. Mais il faut quand même qu'ils arrivent à proposer une solution intermédiaire qui soit un peu plus souple. Maintenant, il faut un minimum de 10-12 jours pour remettre, je veux dire, de l'ordre dans son restaurant et pour appliquer effectivement ces gestes de barrière. Donc oui, laissez faire le chef d'entreprise, petit à petit, marche par marche. Ce sera long, ce sera lent, mais il faut démarrer.
Et notez que le plafond journalier des tickets resto sera doublé à 38 euros dès que les établissements auront rouvert. Marie Dupin et revient en détail sur RMC à 7h20. Le secteur de l'aéronautique, particulièrement impacté aussi par la crise du coronavirus, à Toulouse, fleuron de cette industrie, l'un des plus gros sous-traitants d'Airbus, est confronté à une chute colossale de son activité. Derichebourg Aéronautique prépare un plan de sauvegarde. L'emploi pourrait concerner jusqu'à 700 postes sur les 1600 que compte l'entreprise. Estelle Henry.
Embauché en octobre en CDD, tout se passait bien pour Abder, 31 ans, ouvrier qualifié dans la logistique. Mais avec l'annonce de la direction, tout s'écroule pour lui et son épouse, elle-même salariée de l'entreprise.
J'étais content, j'ai commencé à évoluer sur un poste dont je rêvais depuis un bon moment. Franchement, l'annonce, ça a été violente. Aujourd'hui, je le vis encore mal parce que je me dis qu'au 30 juin, j'ai plus d'emploi. Ma femme n'en a plus. Le 30 avril, on lui a dit que c'était terminé, qu'il n'y avait pas plus de suite. Donc merci, au revoir. Le chômage, on sait très bien comment ça se passe, ça va être 1000 euros. Ma femme vient d'avoir sa notification ce matin, c'est 1100 euros. Qu'est-ce qu'on va faire avec 1100 euros avec un loyer à 790 euros ? C'est grave.
Un plan social qui pourrait être retardé si les salariés renoncent à des acquis sociaux, comme notamment le 13e mois, dans le cadre d'un accord préalable. Impensable pour Philippe Faucard, délégué syndical UNSA Aérien, qui refuse de participer aux négociations.
Nous avons des salariés en pleurs au téléphone. Ils sont complètement atterrés. En tant que délégué, je ne vois pas me présenter face aux salariés en leur expliquant que j'ai négocié de la perte de pouvoir d'achat.
De son côté, Force Ouvrière, syndicat majoritaire, annonce au contraire vouloir négocier avec la direction pour sauver un maximum d'emplois.
Une mère d'élève a déposé un recours en urgence auprès du tribunal. Elle dénonce une décision de la ville de Bobigny de ne pas rouvrir les écoles maternelles avant septembre. Les cours dans la plupart des collèges situés en zone verte reprendront la semaine prochaine. 150 000 élèves concernés. Les précisions de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation.
Les collèges des départements verts vont ouvrir la semaine prochaine. Je sais déjà qu'il y a au moins 85% d'entre eux qui vont pouvoir le faire. Ça veut dire environ 4000 collèges qui vont y ouvrir pour les classes de 6e et de 5e. Donc là, on va toucher au moins 150 000 élèves. Et là aussi, c'est une amorce, c'est un début. Nous faisons les choses pas à pas, comme je vous le disais. Et pour ces élèves qui sont encore parmi les plus jeunes, ça me paraît très important qu'ils puissent retrouver le chemin du collège.
5 jours que la France est officiellement déconfinée, 5 jours que certains attendent le week-end avec impatience pour retrouver des amis, la famille, prendre l'air. Certains Parisiens ont planifié de se mettre au vert. Vous savez que les parcs sont toujours interdits, notamment autour de la forêt de Fontainebleau. Gîtes et locations affichent complet jusqu'à la fin du mois. Juliette Pietraszewski, Jean-Baptiste Bourgeon.
Après 2 mois de confinement dans le centre de Paris, David est venu en famille profiter des arbres et des rochers de la forêt de Fontainebleau.
Je me suis dit que passer 2-3 jours après cette période un peu difficile de rester chez soi, de rester cloîtré chez soi, eh bien ça permet de s'aérer un peu. Simplement le plaisir de respirer les éléments qui sont un peu différents que le béton et les murs cloîtrés de Paris. Voilà, juste le temps de quelques jours de respiration dans la forêt de Fontainebleau.
Dans les villages alentours, les locations de gîtes explosent.
Ça a été une avalanche de coups de téléphone.
Stéphane Vérino, propriétaire, a dû refuser une dizaine de clients. Son gîte est plein à partir de ce week-end et jusqu'à la fin du mois.
La Pentecôte, l'Ascension sont pris d'assaut en Seine-et-Marne. Du 9 au 16, je suis déjà réservé. Du 23 au 30, je suis réservé. Et toutes ces réservations sont arrivées en l'espace d'une semaine. Mais majoritairement, ce sont des Parisiens qui viennent par les 100 km. Ils sont en recherche de nature, de verdure et d'évasion. Ils viennent vraiment s'oxygéner en Seine-et-Marne.
Stéphane Vérino espère qu'en ces week-ends d'affluence, les règles sanitaires seront respectées en forêt afin d'éviter de nouvelles interdictions.
Dans l'actualité également, le meurtre de Myriel Knoll. Le parquet souhaite que le caractère antisémite soit retenu au procès. 2 hommes, le fils d'une voisine et un marginal, se rejettent la responsabilité du crime. En mars 2018, le corps de cette femme de 85 ans avait été retrouvé lardé de coups de couteau dans son appartement parisien. La compagne d'Amédie Coulibaly, terroriste de Montrouge et de l'Hypercacher, serait encore vivante. Une nouvelle enquête antiterroriste a été ouverte à l'encontre d'Ayad Boumediene. Elle avait fui en Syrie après les attentats de janvier 2015. 15. Et puis l'Olympique de Marseille en crise. Une nouvelle fois, le club a officialisé hier le départ de son directeur sportif espagnol, Andoni Zubizarreta. L'entraîneur André Villas-Boas pourrait aussi être sur le départ. Le coach portugais avait effectivement lié son avenir à celui de son directeur sportif.
Bien, il est 7h10. Merci beaucoup. Merci Céline. On vous retrouve tout à l'heure à 8h. Vous continuez à appeler le 32-16. Vous êtes avec nous. Nous sommes avec vous. C'est notre lien. Vous le savez. Vous appelez RMC le matin. Vous regardez RMC. Vous regardez RMC Découverte. Vous écoutez RMC. Vous pouvez regarder RMC et écouter RMC Découverte aussi. Ça arrive.
Bien sûr.
On laisse la télé allumée chez soi. Et puis, on écoute. C'est comme si on écoutait la radio. Ça marche exactement pareil. Christelle Dubos est avec nous. Secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Bonjour, Christelle Dubos. Merci. Merci. J'ai hâte de vous voir revenir en studio. Je le dis à chaque fois maintenant. J'ai hâte parce que c'est mieux quand même pour les interviews. Bon, Christelle Dubos, je sais qu'aujourd'hui sera versée, à partir d'aujourd'hui, l'aide exceptionnelle promise par l'État à plus de 4 millions de foyers, les plus modestes, les plus précaires. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. Alors, attendez, parce que là j'ai une précision. Chaque famille bénéficiaire du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité recevra 150 euros. Chaque famille ou chaque bénéficiaire ?
Chaque famille, chaque foyer. C'est-à-dire que vous avez des foyers qui sont composés d'une personne pour des bénéficiaires du RSA. Ce sont des bénéficiaires du RSA qui sont seuls, donc ils auront 150 euros. Et quand vous êtes au couple, un couple au titre du RSA, vous recevrez 150 euros. Comme pour l'allocation de solidarité, à cela se rajoute 100 euros par enfant à charge. Et nous avons aussi ciblé les familles modestes, les familles qui sont locataires et qui touchent des aides au logement, des APL, elles recevront 100 euros par enfant supplémentaire. Pourquoi nous avons choisi ces deux situations ? Parce que quand vous êtes famille avec des enfants, famille parfois modeste avec des revenus qui vous permettent de travailler, mais sur lequel le quotidien est compliqué. Quand on a fermé les écoles, on a fermé les cantines. Et donc, du coup, les familles ont eu à faire face à des frais supplémentaires d'alimentation pour leurs enfants. Et puis, quand vous êtes bénéficiaire des minima sociaux...
Bon, Christelle Dubos, je vous arrête parce que la ligne technique n'est pas très bonne. Vous savez ce qu'on va faire ? On va se mettre au téléphone. Ça sera bien mieux. On va arrêter d'ailleurs avec ces Skype le matin qui marche une fois sur deux. Moi, c'est pour ça que je précise que bientôt, il faut que tout le monde vienne en studio. Et d'ailleurs, mes invités de 8h35 commencent à revenir. Il faut parce que c'est pas possible techniquement. Donc, Christelle Dubos, je vous reprends dans deux minutes. On va faire une petite pause publicitaire. Je prendrai aussi Florence. Tiens, je vais prendre Florence en attendant. Comme ça, on va pouvoir tout aménager techniquement. Florence qui est à Saint-Charles. Chapte dans le Gard. Bonjour Florence.
Oui, bonjour Jean-Jacques.
Allô. Oui, alors les autres. Vous m'entendez, je vous entends très bien, le téléphone marche très bien. Florence, vous êtes autocariste. Des milliers d'emplois sont en jeu, effectivement. Qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce que vous savez de ce qui va se passer ?
Ben justement, on sait rien, puisque hier, l'annonce du Premier ministre, pas un mot sur les autocaristes.
Oui.
Vous m'entendez, Jean-Jacques ?
Oui, je vous entends. Mais voilà. Les autocaristes, vous allez pouvoir refonctionner, comme pour les avions, comme pour les trains. Hein.
À 60% de notre capacité, donc ça veut dire que sur un car de 55 places, c'est 30 personnes dans le car, 33 personnes dans le car. Et franchement, c'est pas rentable, quoi. Il ne vaut mieux pas rouler. Puisque là, 33 personnes, nous on n'a que des personnes, on travaille la majorité avec des personnes des clubs de troisième âge, des retraités, et tous ils nous disent, voyager, c'est pas une priorité, c'est pas grave, on partira l'année prochaine. Quand on les rappelle pour relancer nos voyages en septembre-octobre, on a des annulations de voyages septembre-octobre, hier j'ai eu deux annulations
de voyages.
Oui
mais Florence, ça va peut-être changer après les annonces d'hier. Il n'est pas impossible, je ne sais pas, moi, comment ça va être réglé pour les autocaristes. Vous avez raison de nous alerter.
Vu les investissements des autocars, ça fait, c'est quand même pas une paille. Et comment on fait, quoi ? Comment on survit ? On n'a rien eu, à part l'aide de l'URSSAF de 1250 euros des chefs d'entreprise. C'est tout ce qu'on a reçu comme aide. Vous vous rendez compte, monsieur Bourdin ?
Oui.
Et on est à zéro. Nous, on est à moins 130% de chiffre d'affaires au mois de mars, par rapport à mars 2019. Enfin, c'est colossal, colossal. Et personne n'évoque notre cas. Donc, on va tous à la faillite.
Bon. Pour faire bouger Florence, les choses. Florence, c'est une très bonne question. J'aurai, je pense, Jean-Baptiste Djebbari la semaine prochaine, le ministre des Transports, qui s'occupe des autocaristes. Eh bien, je lui poserai ces questions. Ne vous inquiétez pas, je la mets sous le coude. Merci, Florence.
Merci beaucoup, bonne journée.
Merci, bonne journée, Christelle Dubos, que nous allons retrouver dans un instant. On va faire la pub très vite, et ensuite, Christelle Dubos qui sera avec nous.
RMC, 6h-9h.
Bourdin Direct. Il est 7h18, merci d'être avec nous. Christelle Dubos est là. Christelle, pardon, je vous appelle Christelle, on se connaît pas, mais ça fait rien. C'est comme ça ici, vous savez.
Bon, c'est pas grave, il n'y a aucun problème.
Vous êtes jamais en dehors du boulot, hein, que les choses soient claires. Moi, je ne rencontre jamais personne. Christelle Dubos, dites-moi, je reprends, chaque famille bénéficiaire du RSA, de l'allocation spécifique de solidarité, du revenu de solidarité, recevra 150 euros chaque famille. Les familles touchant des aides au logement percevront de leur côté 100 euros par enfant. Plus de 4 millions de foyers toucheront en une seule fois. Donc c'est versé à partir d'aujourd'hui.
C'est versé aujourd'hui par les caisses d'allocations familiales, pour le régime agricole pour les MSA et puis aussi par Pôle emploi pour les allocataires de l'allocation de solidarité spécifique. Aujourd'hui, en une seule fois, de façon automatique, aucune démarche à faire.
Aucune démarche à faire, c'est automatique. Bien, pour les plus jeunes, les moins de 25 ans, cette aide exceptionnelle promise sera versée quand ?
Au mois de juin, 200 euros pour 800 000 jeunes, 200 euros qui seront versés à des étudiants en situation de précarité, mais aussi à des jeunes non étudiants sans enfants, touchant les aides au logement. Donc 200 euros par jeune pour 800 000 jeunes.
Il y a énormément de personnes qui souffrent avec cette crise sanitaire, les plus modestes, les plus précaires. Vous lancez aussi un plan de soutien à l'aide alimentaire de 39 millions d'euros, c'est cela pour soutenir les associations.
Pour un plan de 39 millions d'euros d'urgence d'aide alimentaire en deux piliers. 25 millions pour soutenir les associations et 14 millions qui ont permis de financer des chèques d'urgence alimentaire qui ont été directement distribués aux familles pour pallier à l'urgence. Ce sont bien un tiers du budget annuel de l'État que nous avons remis sur la table pour soutenir l'aide alimentaire parce que ça n'était pas une option en temps de crise.
Oui, cette aide aux familles touche notamment les territoires où il y a le plus de précarité, sous forme de chèques d'urgence alimentaire, hein, distribués par les communes et les associations, c'est cela, hein ?
Exactement, tout à fait. Ce sont des tickets comme des tickets restaurants sur lesquels les familles peuvent aller faire leurs courses directement avec et les commerçants ont obligation de les accepter et de rendre la monnaie dessus.
La demande d'aide alimentaire a fortement augmenté dans de nombreux départements.
Dans de nombreux départements, en effet, on voit une augmentation de façon importante sur certains territoires plutôt que d'autres. En moyenne, 40% sur certains territoires. Habituellement, c'est 5 millions de personnes qui bénéficient de l'aide alimentaire de façon ponctuelle ou régulière. Là, on peut estimer à 8 millions de personnes sur tout le long de l'année qui auront bénéficié de l'aide alimentaire en 2020. Et donc, c'est tout le travail que je fais avec les associations pour aussi anticiper et préparer la sortie de crise. L'objectif, c'est bien d'accompagner et qu'il y ait de l'aide alimentaire partout sur le territoire et que chaque Français qui en ait besoin puisse y avoir accès.
Bien, avec aussi des aides pour permettre à certains enfants de familles très modestes de partir en vacances, en colonie de vacances par exemple.
C'est un des sujets qui est en cours d'être travaillé. Le Premier ministre a annoncé hier que les Français pourraient partir en vacances en juillet et en août. L'objectif, c'est que les vacances ne soient pas encore considérées comme un luxe. Vous savez, l'État, chaque année, accompagne beaucoup de familles à partir en vacances. Les mairies, les associations jouent un grand rôle aussi sur ce sujet. Et donc, nous devons travailler, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, pour que aucun Français ne puisse rester sur le bord de la route des vacances, en effet.
Merci Christelle Dubos, merci secrétaire d'État auprès du ministre des Solidarités et de la Santé. Bah tiens, vous avez un message d'espoir. Écoutez Patrice qui est avec nous, qui est à Champs-sur-Marne en Seine-et-Marne. Bonjour Patrice.
Oui, bonjour à tous. Bonjour.
Oui, vous êtes chanteur dans des maisons de retraite.
Chanteur-guitariste, oui, tout à fait.
Et donc, chanteur-guitariste. Et hier, première retour, première prestations depuis le début de cette crise.
Tout à fait. Donc, effectivement, j'avais pas mal de dates qui ont été annulées, c'est normal. Et puis là, c'était une date qui était prévue depuis plusieurs mois déjà et que, ben, ils ont maintenu la date. Et, ben, ils ont voulu faire un essai. Ils se sont dit, ben, écoutez, s'il fait beau, on va essayer de faire ça dehors et puis ils pourront entendre soit par les fenêtres ou soit par la salle. Mais comme il faisait beau, effectivement, mais bon, il est assez froid. Et donc, du coup, ils ont dit, bon, on va faire ça à l'intérieur. Là où ils mangent, ils étaient tous bien espacés. Ils avaient tous des masques en rond. Enfin, la salle est assez grande. Et donc, ils étaient bien au moins minimum à 6 mètres de moi. Donc, ça s'est bien passé. Bon, je suis arrivé avec le masque, la prise de température, le personnel, tout était bien cadré. Et donc, tout le monde, ça s'est bien passé. Tout le monde était très content et ça leur a fait du bien. Et puis, même au niveau du personnel qui chantait, tapait des mains. Et voilà, donc c'était un retour... c'était un retour à la normale et puis ma foi c'était pas très bien passé donc voilà moi aussi ça m'a fait du bien de reprendre un peu
j'imagine et merci de nous faire partager ce bon oui
voilà
très vite,
et la bonne c'est la bonne nouvelle c'est qu'il y avait aucun cas de Covid dans l'établissement
dans la maison,
comme quoi il y a aussi des bonnes nouvelles forcément.
Mais bien sûr.
Et donc voilà. Et donc, ça s'est tout très bien passé.
Merci
voilà,
de nous faire partager ce bon moment, voilà. Patrice. Merci. Il est 7h24. Merci. Vous êtes sur RMC, Marie Dupin.
Mais elle est là, Marie. Elle est là, tout de suite pour nous parler des tickets restaurants.
Marie, ça va?
Oui, ça va et vous?
Très bien. En forme, ce matin, vous avez changé. Tiens, ce matin. Vous avez changé de pièce.
Oui, je sais que vous aimez bien quand on change de décor.
Près de la cuisine, là, non? Non, enfin, je
n'en
sais pas.
Ouais.
Pas loin, oui, d'accord.
Pas loin.
Bon, justement, la cuisine, les tickets restaurants, la transition.
Exactement.
Un peu tirée par les cheveux, mais bon. Le gouvernement a totalement changé sur la manière dont les salariés vont pouvoir dépenser leurs tickets restaurants, Marie. Ouais.
Pour les masques, je sais pas, mais pour les tickets restaurants, on peut parler d'un vrai changement de doctrine, Jean-Jacques, le 24 avril, le gouvernement nous annonçait que le plafond passerait de 19 euros par jour à 95 euros par semaine, une fois par semaine pour faire ses courses au supermarché. Finalement, ce dispositif ne verra jamais le jour. Le plafond va bien être relevé, mais jusqu'à 38 euros tous les jours. Donc, l'idée, c'était de faire en sorte que les gens se déplacent le moins possible, aillent faire leurs courses le moins possible. Et bien maintenant, c'est tout le contraire. L'idée, c'est de faire en sorte que les gens aillent le plus souvent possible au restaurant pour relancer le secteur, évidemment.
Oui, 38 euros pour aller au restaurant dès l'ouverture des restaurants possibles, je le rappelle, à partir du 2 juin en zone verte. Hein. Il ne s'agira pas d'aller dépenser ces 38 euros dans une grande surface.
Voilà. À partir du 2 juin, peut-être, on n'a pas encore la date, mais peut-être à partir du 2 juin pour les zones vertes. Pour les zones rouges, on n'en sait rien. Et effectivement, ce sera uniquement 38 euros à dépenser pour les restaurants. J'ai bien appelé les responsables du gouvernement hier pour le confirmer. Dans les petits commerces de Bourges, dans les grandes surfaces, le plafond va rester à 19 euros. L'idée, c'est bien de soutenir à fond le secteur de la restauration.
Oui, ce n'est pas anecdotique pour les restaurants, Marie.
Oui, en tout cas, c'est ce que dit Édouard Philippe. Et c'est vrai que les tickets restaurants, ça représente beaucoup d'argent. 4 millions de salariés les utilisent, c'est plus de 6 milliards d'euros par an. Et évidemment, ces tickets restaurants, ils se sont accumulés pendant tout le confinement. On va donc pouvoir les dépenser à hauteur de 38 euros quand les restaurants rouvriront. Et ce, jusqu'à la fin de l'année, Jean-Jacques.
Bien, merci Marie. Comment s'est passée cette première semaine de déconfinement, Quentin Vinet ? On a des chiffres, hein ?
Oui, on a des chiffres. On s'habitue à porter le masque. 86% des Français qui ont repris le travail en avaient un avec eux, selon l'agence CAPA. Beaucoup disent que le masque, c'est vrai, les a gênés dans leur travail. Mais il faut changer certaines habitudes, notamment dans les transports. 37% des utilisateurs ne sont pas sûrs de les reprendre, d'après un sondage CSA, la plupart parce que les distances ne peuvent pas être respectées. On fait des achats aussi, mais alors des achats utiles en cette première semaine de déconfinement. T-shirts, baskets, jeans, notamment pour les enfants qui ont grandi pendant le confinement, c'est ce que disent les magasins. Robots de cuisine et lave-linge, ça c'est pour l'électroménager. Et puis on pense à soi aussi, on retourne chez le coiffeur. Le réseau Treatwell a enregistré un pic de 5000 réservations pour des soins en une seule journée.
Et justement, les salons de coiffure, l'actu des réseaux sociaux. Les salons de coiffure qui ne désemplissent pas depuis leur réouverture lundi.
Oui, et ça inspire les internautes avec un premier constat sur Twitter. Je crois que niveau délai, les coiffeurs vont devenir les nouveaux ophtalmos, écrit un internaute d'ailleurs. Selon un autre, c'est devenu le nouveau chic, le signe qu'on a un réseau puissant. Obtenir un rendez-vous chez le coiffeur dès la première semaine. Alors parmi ceux qui ont réussi...
Moi j'ai un réseau puissant.
Ah, oui. Monsieur Bondin,
Rendez-vous dès le 12, mais non, j'avais évidemment. Pris rendez-vous
au début du confinement. Alors,
il y a longtemps. Je vous l'accorde. Parmi ceux qui ont réussi à y aller comme vous, Jean-Jacques, certains avaient beaucoup d'espoir, comme cet internaute qui raconte « Je sors de chez le coiffeur et j'espère que j'y ai perdu les 3 kilos en trop que la balance affiche depuis la fin du confinement ». On a aussi ceux qui sont plus méfiants, comme cet internaute qui dit « Je vais attendre un peu pour prendre rendez-vous. Ça fait 2 mois que mon coiffeur n'a pas touché un crâne. Je le laisse s'échauffer sur vos têtes », dit cet internaute. Certains souhaitent bon courage aux coiffeurs pour enfants qui vont devoir rattraper tous les massacres capillaires réalisés par les parents pendant 2 mois. Et puis, qui dit salon de coiffure, dit « jeu de mots », cet internaute qui s'étonne qu'aucun salon n'ait encore eu l'idée de se rebaptiser Covid-TIF-9. Mais le jeu de mots qui fait fureur ces derniers jours sur Twitter, c'est cette question posée par un internaute. Si j'attrape le virus chez le coiffeur, est-ce qu'on peut dire que ma santé s'est dégradée? La blague fait fureur, mais je vous l'accorde, le jeu de mots est un peu tiré par les cheveux.
Oui. Un Toulousain qui se vantait sur Facebook de braver le confinement a été interpellé et condamné.
Oui, pendant plus de 50 jours, il a nargué les forces de l'ordre sur Facebook. Tous les soirs, il publiait des photos de ses escapades dans les Pyrénées. 33 jours de confinement, 34e sortie, pouvait-on lire sur son profil. J'ai les jambes raides après ce trail de 40 km. Encore un bras d'honneur à toutes les règles de la dictature. Autant de sorties illégales, interdites pour éviter de surcharger les hôpitaux en cas de blessure. Mais il était visiblement très fier. Hein. Vous ne me trouverez jamais, écrivait-il. Eh bien, les forces de l'ordre ont fini par le trouver, car le monde de la montagne, c'est un microcosme, explique un gendarme. Ils ont fini par le prendre en flagrant délit sur un spot très connu d'escalade. Il a reconnu les faits devant le tribunal de Tarbes, 300 euros d'amende pour outrage.
Il est 7h29. Vous allez nous expliquer, Nicolas Poincaré, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques.
Cette folle course au vaccin.
Une course qui se déroule à une vitesse qu'on n'avait jamais pu imaginer auparavant. On compte en jours ou en semaines les étapes qui se franchissaient en mois ou en années auparavant. Il y a plus de 150 programmes de recherche qui ont été recensés, dont certains, une dizaine, en sont déjà aux essais sur l'homme.
Bien, nous en parlerons tout à l'heure, c'est passionnant. Et nous en parlerons aussi avec mon invité.
Sur les vaccins, avec le professeur Odile Launay, infectiologue responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin à Paris, avec nous juste après le journal
Cochin
de 7h30.
Associé à l'Institut Pasteur, sur le vaccin. Bien, il est 7h30, mais c'est l'heure des infos déjà, avec Anne-Sophie Balbir qui est là pour nous. Anne-Sophie, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Une nouvelle étape dans le déconfinement. Il sera possible de partir en vacances en juillet et en août en France. Édouard Philippe nous encourage à réserver dès maintenant. L'hydroxychloroquine inefficace contre le coronavirus. Résultat de 2 études publiées aujourd'hui. Les détails de Rémi Inc dans ce journal. Et puis, ça bouge à l'Olympique de Marseille, départ du directeur sportif espagnol Zubizarreta. L'entraîneur André Villas-Boas pourrait suivre RMC 7h31. C'était la question qu'on se posait depuis des jours, voire des semaines. Sera-t-il possible de partir en vacances cet été? Eh bien oui, possible, en France métropolitaine et dans les DOM-TOM en tout cas, et sous réserve de restrictions très localisées. Édouard Philippe l'a annoncé hier. Le Premier ministre a même affirmé qu'on pouvait commencer à faire nos réservations. Les professionnels du tourisme retrouvent le sourire. Illustration au bord du lac d'Annecy, Florence Donjon.
Servane a repris le camping familial de 200 emplacements il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle a le sourire. Le téléphone sonne de nouveau pour de bonnes nouvelles.
Solitaire du Lac, bonjour.
Au bout du fil, un couple d'habitués qui vient chaque été.
Alors moi j'ai bien noté, hein, 23 juillet, 30 août, donc on y croit.
Une confirmation de réservation d'un séjour d'un mois, de quoi redonner du baume au cœur à la gérante. Habituellement en juillet, 80% de sa clientèle est étrangère. Cette année, elle devra faire une croix dessus. Elle compte donc sur les Français.
Il me confirme en disant, maintenant qu'on peut bouger, on va venir, quoi. On va peut-être pouvoir avoir du monde quand même, ne serait-ce que les gens des alentours qui, normalement, partaient plus à l'étranger.
Du côté des Gîtes de France, les réservations reprennent également.
Ça s'est multiplié par 4, 5, 6, 7.
Et tout sera prêt pour accueillir les clients, estime Solange Escure, la directrice générale de la Fédération nationale.
Nous avons mis en place un protocole sanitaire spécifique à la situation que l'on connaît pour préparer les hébergements en toute confiance pour nos clients et leurs clients.
La Fédération assure à ses clients qu'elle procédera à un remboursement intégral s'ils ne peuvent partir à cause de l'évolution de l'épidémie.
Et la SNCF ouvre dès ce matin les réservations des TGV et Intercités. La compagnie ne vendra qu'une place sur deux dans les trains, au moins jusqu'au 2 juin. Billets échangeables ou remboursables sans frais. Autre annonce qui était très attendue, la date de réouverture des bars, cafés et restaurants. Tout dépendra là aussi de la situation sanitaire. Mais le gouvernement table sur le 2 juin dans les départements classés verts. Encore un peu de patience donc, d'autant qu'on peut déjà profiter d'un premier week-end post-confinement, dans la limite de 100 km évidemment. L'emploi du temps est bien rempli, dîner entre amis, promenade en famille, shopping, un week-end test pour les commerçants. Exemple à Montpellier, Mélanie Delaunay, Grégory Hudron.
Depuis lundi, les petits commerces du centre-ville retrouvent timidement des couleurs. Jérôme est gérant d'un magasin de jouets.
Il y a eu du monde, il y a eu du passage, il y a eu des achats, il y a eu des ventes depuis le début de la semaine. C'est bon signe.
Malik gère un magasin d'objets. Claire est vendeuse dans une boutique de vêtements. Ces deux commerçants espèrent que le week-end permettra de redémarrer l'activité pour de bon.
C'est un peu qui tout double. Est-ce que les gens sont encore un peu frileux et vont rester à la maison? Ou est-ce que ils ont des envies d'achat, besoin un peu de sortir? C'est un peu l'expectative, on va voir.
Bon, les gens aussi ont repris le travail aussi, donc sont peut-être moins disponibles. Peut-être que samedi, on aura un peu plus de monde. On va voir, on est prêts, on les attend.
Des clients attendus avec impatience pour tenter de rattraper d'énormes pertes. Odette Dedé préside une association de commerçants du centre-ville.
Il faut que ça reprenne, parce que sinon, on ne tiendra pas. De toute façon, on ne peut pas tenir 2 mois sans chiffres. Il nous faut du monde. Il faut que des gens viennent reconsommer chez leurs petits commerçants et aider le commerce de proximité s'ils veulent le garder.
Les professionnels redoutent également un retour des manifestations le week-end. Le préfet de l'Hérault a notamment interdit un rassemblement des Gilets jaunes prévu demain à Montpellier.
Notez qu'à l'issue du comité interministériel du tourisme hier, Édouard Philippe a annoncé que l'État allait consacrer au secteur un effort global de 18 milliards d'euros. Le plan contient les mesures de chômage partiel, les prêts garantis par l'État, les exonérations sociales ou encore les reports d'impôts. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sera votre invitée, Jean-Jacques, à 8h30 sur RMC et BFM TV.
Bien sûr, et je vais lui parler télétravail, chômage partiel. Évidemment, jusqu'à quand le chômage partiel? Question très importante à poser à Muriel Pénicaud tout à l'heure.
La France va imposer une quarantaine aux voyageurs venant d'Espagne. Même décision prise par Madrid qui applique la mesure dès aujourd'hui. C'est une première, Thomas Chupin.
Et pourtant, jusqu'ici, les portes étaient grandes ouvertes pour les ressortissants européens. Pas de quarantaine appliquée en France à tous les étrangers en provenance d'un pays de l'espace Schengen. Mais voilà, mesure de rétorsion, en quelque sorte. À partir d'aujourd'hui, l'Espagne impose une quarantaine à tous les étrangers arrivant sur son sol. La France en fait donc de même avec les Espagnols. 14 jours à l'isolement pour ceux qui arrivent sur le sol français. Ce qui est surprenant, c'est que des mesures similaires existent ailleurs. Impossible de passer outre la quarantaine, par exemple, si un Français décide d'aller en Allemagne ou en Italie, sauf conditions exceptionnelles. Pourtant, Allemands et Italiens peuvent venir en France sans problème, en respectant malgré tout les règles en vigueur, notamment celles des 100 km. Enfin, le cas du Royaume-Uni qui place en quarantaine tous les voyageurs étrangers, sauf les Irlandais et les Français.
Selon un dernier bilan, 351 personnes de plus sont mortes en 24 heures en France. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser et c'est dans ce contexte que 2 études sont publiées sur l'hydroxychloroquine. Conclusion, Rémy Inc, ce traitement vanté par le professeur Raoult ne semble pas efficace contre le Covid.
Oui, 2 études, Anne-Sophie, menées dans 2 pays différents qui tendent à montrer à peu près la même chose. L'hydroxychloroquine ne semble pas efficace contre le Covid-19. Que ce soit d'ailleurs chez des patients gravement ou plus légèrement atteints. La première étude est menée par des chercheurs français et porte sur 181 patients adultes admis à l'hôpital avec une pneumonie due au Covid-19, des patients qui avaient besoin d'une assistance respiratoire, de l'oxygène. 84 d'entre eux ont reçu de l'hydroxychloroquine quotidiennement moins de 2 jours après leur hospitalisation. Et conclusion, pas de réduction significative des risques d'admission en réanimation ni de décès chez ces patients. Le fait de recevoir ou pas ce traitement n'a finalement rien changé. Deuxième étude, elle est menée par une équipe chinoise. Elle parvient aux mêmes conclusions et met également en avant des effets secondaires plus importants comme des troubles digestifs. Notons d'ailleurs que les autorités sanitaires de plusieurs pays ont déjà mis en garde contre le risque d'effets indésirables de l'hydroxychloroquine, effets secondaires notamment cardiaques.
Rémy Inc, merci. Le sport quasi à l'arrêt, toujours en France, mais voilà que ça s'agite à l'Olympique de Marseille. Le directeur sportif espagnol Andoni Zubizarreta s'en va. Départ qui pourrait avoir des conséquences sur l'avenir de l'entraîneur André Villas-Boas. Florent Germain.
Oui, c'est même désormais la préoccupation première des supporters marseillais. Est-ce que le départ d'Andoni Zubizarreta provoquera celui du coach André Villas-Boas ? C'est la tendance ce matin. L'entraîneur portugais avait lié son avenir à celui du directeur sportif espagnol. Villas-Boas a rencontré lui aussi Jacques-Henri Hérault cette semaine. Le coach de l'OM s'est montré très agacé par la tournure des événements et par le manque de moyens de l'OM. Il a donc informé le président olympien de sa volonté de quitter le club phocéen. Villas-Boas se laisse 24 heures pour acter les choses et échanger avec Jacques-Henri Hérault qui arrive posté en lui proposant une prolongation de contrat, mais sans trop y croire. Les joueurs de l'OM, de leur côté, qui adorent leur coach, sont inquiets et se disent persuadés que dans ces conditions, personne ne pourra retenir André Villas-Boas.
Les courses, Mathieu, c'est à Vincennes.
Avec le pronostic de la Dream Team des courses RMC, favori numéro 4, Dreamer Boy, outsider numéro 14, Donuts de la Doue, le 4 et le 14.
Merci Anne-Sophie, il est 7h38, Mathieu reste avec nous, 7h38 évidemment. Le professeur Odile Launay est avec nous, je suis très heureux de recevoir le professeur Odile Launay qui est infectiologue, responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin à Paris. Vous l'avez compris, nous allons parler vaccins et traitements. Bonjour professeur Launay.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un mot sur les traitements. Ces deux études, dont on en parlait dans le journal, sur l'hydroxychloroquine. Deux études qui sont publiées par la revue médicale britannique BMJ. C'est une revue très sérieuse qui fait autorité.
Ah oui, c'est une revue prestigieuse. Oui, ça fait partie des grandes revues européennes.
Bien, alors ces deux études, l'une française portant sur 181 patients adultes admis à l'hôpital avec une pneumonie due au Covid-19 qui nécessitait qu'on leur administre de l'oxygène, 84 de ces patients ont reçu de l'hydroxychloroquine, ça n'a rien fait, aucune conséquence. Seconde étude de 150 adultes hospitalisés en Chine avec des formes légères ou modérées de Covid, et là encore l'étude a montré que ce n'était pas efficace. Vous êtes surprise ou pas?
Alors, on a de plus en plus de données qui montrent que l'hydroxychloroquine administrée, en tous les cas à ce stade-là de l'infection, n'a pas d'effet. Donc, on a aujourd'hui maintenant beaucoup de données accumulées. On manque encore de données à un stade peut-être plus précoce de l'infection et qu'on devrait avoir dans les semaines qui viennent.
Bien, professeur Launay, parlons des vaccins maintenant, parce que je regardais une interview de Frédéric Tanguy, qui est responsable du laboratoire d'innovation vaccinale à l'Institut Pasteur, et qui ne laisse aucun doute, voilà ce qu'il dit, il n'y aura pas de vaccin miracle en novembre ou en décembre, au mieux ce sera en 2021. Est-ce que vous partagez, je dirais pas ce diagnostic, mais ces propos-là?
Les vaccins, c'est tout un processus de développement, puisqu'on est dans le cadre d'un nouveau virus. On n'a jamais développé de vaccin contre un coronavirus, donc il y a quand même une petite part d'incertitude sur la possibilité de le faire. Il y a aujourd'hui des éléments qui laissent penser qu'on va y arriver, mais c'est pas du tout sûr, hein. On a toujours ce petit risque. Et puis ensuite, il y a tout un processus qu'il faut suivre pour, d'une part, vérifier que le vaccin permet d'obtenir une réponse immunitaire vis-à-vis de ce virus. Ensuite, des essais qui permettent de montrer qu'il va prévenir l'infection, c'est-à-dire que les anticorps qu'il permet de générer sont efficaces et préviennent l'infection. Et ces essais, qui sont des essais d'efficacité, sont des essais assez longs à mettre en place, puisqu'il faut être capable de suivre les personnes qu'on a vaccinées et de compter finalement le nombre de personnes qui vont s'infecter si elles ont été vaccinées ou si elles ont reçu ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un produit qui n'a pas de principe actif. Et ça, cette dernière phase, elle est relativement longue et elle dépend bien sûr de la circulation du virus. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a des essais qui vont démarrer probablement à l'été, si tout va bien, et il faut compter au minimum 3 mois pour vérifier que ce vaccin est efficace. Et puis le dernier point, qui est évidemment extrêmement important, c'est qu'il faut se mettre dans une situation où on peut évaluer l'efficacité, mais aussi la sécurité du vaccin. Parce qu'un vaccin va être administré à quelqu'un en bonne santé pour lui éviter d'avoir l'infection, et on peut absolument pas se permettre qu'il soit responsable d'effets indésirables potentiellement graves. Donc ça, c'est un point également très 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 important. Et tout au long du développement du vaccin, on est extrêmement vigilant sur les potentiels effets indésirables, les effets secondaires que pourrait engendrer le vaccin.
Oui, je vous écoute bien, hein, professeur Launay. Il faut beaucoup de temps avant de pouvoir mettre un vaccin en circulation, un vaccin achetable dans une pharmacie, hein, professeur Launay.
Bah oui, c'est un petit peu ça. Habituellement, on considère qu'il faut une dizaine d'années pour développer un vaccin. Là, le développement est très accéléré, hein. C'est vraiment exceptionnel qu'avec un virus qui a été identifié à la mi-janvier de cette année, on puisse déjà, au mois de juillet ou d'août, commencer des essais d'efficacité. C'est vraiment une situation qu'on n'a jamais connue auparavant, qui est extrêmement accélérée. Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est accéléré qu'on ne doit pas conserver une méthodologie très stricte pour évaluer l'efficacité et pour évaluer la sécurité de ce nouveau vaccin.
Bien, professeur Launay, restez avec nous, on va faire un tout petit peu de pub. Je vous garde, infectiologue responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin à Paris. Je sais que l'hôpital Cochin travaille en étroite collaboration avec l'Institut Pasteur. Nous allons en parler dans 2 minutes. Vous allez tout savoir sur les vaccins. De toute façon, toute la demi-heure est consacrée aux vaccins, puisqu'on en parlera aussi tout à l'heure avec Nicolas Poincaré. 7h44, à tout de suite.
RMC, Bourdin Direct.
Est-ce que tu viens pour les vacances ? Mais oui, on pourra partir en vacances cet été, juillet, août, en France, métropole, Corse et Dom-Tom, a dit hier Édouard Philippe. Pour les vacances, c'est direction le Cantal, chez Stéphane. Et puis ce week-end, bah oui, c'est le premier week-end déconfiné. Petit tour dans la montagne pour reprendre un beau bol d'air, nous écrit Stéphane. Mourad, dimanche, pique-nique en forêt avec ma femme et mes enfants. Et pour les vacances, on prévoit rien. Au jour le jour, dans notre beau pays d'Hôte, en Meurthe-et-Moselle. Cette année, Jean-Pierre pousse pour des vacances locales, c'est mon choix parce que la perte financière de l'année est importante, il faut repartir. Ce seront des vacances plus courtes, mais intéressantes parce qu'on a la chance d'habiter dans une région très verte et très chaude pendant l'été. Christophe Boulanger est soulagé, il avait réservé au mois de janvier des vacances en Corse. Il avait peur de ne pas pouvoir y aller, mais il partira au mois d'août, vacances bien méritées. Jacqueline aussi, très heureuse de retrouver son camping des Dauphins Bleus à Givran en Vendée. J'y vais tous les étés depuis 17 ans. Et puis Véronique, elle, en camping car qu'elle loue depuis des années, elle va sillonner la France cet été.
RMC 6h-9h,
Bourdin Direct. Le professeur Odile Launay est avec nous, donc infectiologue, responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin à Paris. Je disais, vous collaborez avec l'Institut Pasteur, vous travaillez sur un vaccin. Quel est votre rôle, Odile Launay ? Odile Launay ?
Oui.
Oui, allez-y. Oui, alors. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça va marcher. Allez-y, d'accord. Ça marche là. Quel est votre rôle ?
Le rôle de notre centre d'investigation clinique, c'est de pouvoir réaliser les essais cliniques vaccinaux, donc avec des nouveaux vaccins, chez des volontaires, qu'on appelle des volontaires sains, c'est-à-dire des personnes qui acceptent de réaliser les essais cliniques. Et donc là, en l'occurrence, avec le vaccin qui est développé par l'Institut Pasteur, qui est un vaccin très intéressant, qui repose en fait sur le vaccin de la rougeole, on va faire ce qu'on appelle la première administration à l'homme. Donc ce vaccin va être administré pour la première fois chez des volontaires, des personnes adultes volontaires, qui vont accepter de rentrer dans cette étude. Et l'objectif de l'étude va être de regarder deux doses de vaccins, deux concentrations de vaccins différentes, et de regarder, de mesurer la réponse immunitaire, à la fois en anticorps, mais aussi en réponse cellulaire, qu'est capable d'induire ce vaccin.
Voilà, 3 mois cette première phase, hein. La phase 1 qui va durer 3 mois. Je crois qu'il y a 100 volontaires sains qui ont été sélectionnés à la fois par l'hôpital Cochin et un centre clinique belge, si j'ai bien compris.
Il y a 90 participants, 45 qui vont être vaccinés chez nous et 45 en Belgique.
Voilà. Bon, en Belgique. Alors, je regardais le professeur Tanguy qui disait toujours dans cette interview, qui disait, il y a beaucoup de dans le monde, cette course folle au vaccin, on répertorie, je sais pas, 120, 130 vaccins en développement dans le monde. Et il disait, oui, mais enfin, il y en a quoi ? Il y en a 5, 6, 7 qui vont aboutir, c'est cela, professeur, à peu près ?
Alors, l'OMS a recensé 140 candidats vaccins, c'est-à-dire des équipes qui travaillent sur des potentiels vaccins. Aujourd'hui, on sait qu'il y en a un peu moins de 10 qui sont déjà en développement clinique, c'est-à-dire avec des essais chez l'homme. Et parmi les vaccins qu'on connaît, on pense qu'il y en aura, oui, au maximum 10 qui permettront d'arriver à une efficacité et qui pourront être utilisés. Mais en fait, on sait qu'on aura besoin de beaucoup de vaccins parce qu'il ne suffit pas d'avoir un vaccin efficace qui ait démontré son efficacité, mais ensuite, il faut que ce vaccin puisse être produit en quantité suffisante pour vacciner un très grand nombre de personnes, puisqu'on voit que ce virus est un virus mondial. Et donc, il faudra qu'on puisse être en mesure de le produire, et donc ça c'est des procédés qui sont extrêmement spécifiques, ensuite de préparer, de faire les doses de vaccin, et ensuite de l'acheminer dans le monde entier avec, vous savez, pour le vaccin, la nécessité de le conserver au froid. Donc c'est tout un travail, et le travail ne s'arrête pas à la démonstration de l'efficacité du vaccin.
Il paraît que les souris, qu'il est difficile d'utiliser des souris pour effectuer des tests sur les potentiels vaccins. C'est vrai ou pas ?
Alors, c'est pas
qu'elles ne sont pas sensibles au Covid.
Oui, alors là, c'est vrai qu'on a, on n'a pas un vrai un modèle qui soit particulièrement actif. De toute façon, quand on développe un vaccin, ce qu'on peut faire chez la souris, c'est avant tout regarder si le vaccin permet d'induire une réponse immunitaire, mais beaucoup plus difficilement de tester l'efficacité, parce que la souris et l'homme sont quand même relativement éloignés l'un de l'autre. Donc la souris est évidemment indispensable pour permettre de vérifier la réponse immunitaire, mais la protection, souvent, elle est difficile à extrapoler. Et donc, on peut assez vite passer chez l'homme. Mmh. Parfois, on peut utiliser un modèle qu'on appelle de primate non humain, en gros c'est les macaques, mais qui sont des animaux beaucoup plus difficiles évidemment à entre guillemets manipuler que les souris. Donc en fait, très vite quand on développe des vaccins, on passe chez l'homme dès qu'on a des données qui montrent que la réponse immunitaire semble intéressante et qu'on va pouvoir évaluer chez l'homme la réponse et la protection.
Merci, professeur Odile Launay, infectiologue, responsable du centre de vaccinologie de l'hôpital Cochin à Paris. C'est absolument passionnant, les vaccins. Je rappelle quand même qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre le sida. Ça fait 35 ans qu'on y travaille. Et qu'il n'y a toujours pas de vaccin contre la dengue. Ça fait 50 ans qu'on essaie de trouver un vaccin. Donc, y aura-t-il un jour un vaccin contre le coronavirus? Dans tous les cas, la course est lancée. Merci, professeur Odile Launay. La course est lancée. La course au vaccin, n'est-ce pas, Nicolas Poincaré? Expliquez-nous, c'est le moment.
RMC, expliquez-nous.
Nicolas, la course folle dans le monde.
Oui, une course de vitesse avec une accélération effectivement stupéfiante. On va peut-être faire en un an ce qui normalement en prend 10. Le top départ de cette course a été donné précisément le 10 janvier de cette année. C'est le jour où les Chinois ont mis en ligne à la disposition de tout le monde le séquençage complet du virus. À l'époque, c'était une sorte de SOS que les chercheurs chinois avaient lancé en mettant tout ça à la disposition de tout le monde. Et les chercheurs se sont mis partout au boulot immédiatement. Et 40 jours seulement après, eh bien, les premiers essais ont été lancés. Ouais. 40 jours, là où il aurait fallu normalement des mois, voire des années.
Oui, on était en février, on était en mars, on est en mai. Toujours rien. Hein.
Non, mais ça avance, ça oui. avance. On en est au jour 125 des recherches et on a avancé. Donc 157 programmes ont été lancés.
Précisément.
Selon le dernier décompte de la London School of Tropical Medicine. La plupart sont en phase préclinique, c'est-à-dire la phase de recherche en laboratoire et sur des animaux.
C'est pas facile, les macaques, oui, voilà. Essentiellement.
10 ouais. programmes sont en phase 1 dans le monde, c'est-à-dire l'essai sur l'homme, 10 à 100 volontaires pour déterminer comment les hommes tolèrent
début
le vaccin.
Début juillet à l'Institut Pasteur, hein,
voilà,
vous avez compris.
Il y en aura d'autres bientôt, effectivement. Et puis il y a un programme qui est déjà en phase 2. La phase 2, c'est un essai sur 50 à 500 volontaires pour mesurer cette fois, non pas que l'on tolère le vaccin, mais pour mesurer son efficacité. Ensuite, il reste la phase 3 qui est à encore plus grande échelle. Et puis après, si ça, tout va bien, la mise mis sur le marché.
Bien. Dans quelle direction cherche-t-on ?
Alors, c'est très intéressant. Il y a des recherches classiques, on vient d'en parler, celle de l'Institut Pasteur, par exemple, qui travaille
sur la rougeole.
À l'ancienne, sur un vaccin dérivé du vaccin de la rougeole. Mais il y a des recherches beaucoup plus révolutionnaires. Le laboratoire américain Moderna expérimente la technique dite ARN Messenger. Le principe, c'est qu'on n'envoie pas un virus dans le corps, mais on envoie des informations sous forme d'ADN modifié. Et ce sont ces informations qui provoquent la fabrication des défenses, des anticorps. Des essais sur l'homme sont en cours depuis le mois de mars à Seattle. Ça n'avait jamais été autorisé auparavant. Si ça marche, ce serait une révolution.
Oui, et cette course au vaccin s'accompagne aussi de coups bas, parfois.
Avec parfois des scènes qui font penser à des romans d'espionnage. Le FBI américain a accusé ces jours-ci des pirates informatiques et des étudiants proches de la Chine d'avoir hacké les informations de grandes universités américaines et de labos publics américains. Pékin a répondu que c'était de la diffamation. Et puis en mars, c'est Donald Trump, lui, qui avait été accusé d'avoir tenté de racheter à prix d'or toutes les recherches d'un labo allemand qui s'appelle CureVac et qui est très avancé sur les vaccins de demain dont on vient de parler avec ADN modifié. Les Américains voulaient racheter toutes les recherches et toute la fabrication à venir si tout va bien. Les Américains avaient démenti cette tentative de hold-up, mais les autorités allemandes s'étaient montrées très préoccupées.
Alors, lorsqu'on aura un vaccin, si tout va bien, si on a un vaccin un jour, encore une fois, c'est pas certain, il faudra encore le fabriquer à grande échelle.
Voilà, et là, ce ne sera plus la course, ce sera la guerre.
Oui.
Si vous avez aimé la saison 1, la guerre des masques, avec ses acheteurs qui se battent avec des valises de billets, ce sera rien à côté de la saison 2, la guerre des doses de vaccins. Tous les grands labos ont déjà prévenu qu'ils n'avaient pas la capacité industrielle de fabriquer les milliards de doses dont on aurait besoin. Certains annoncent pouvoir produire quelques dizaines de millions l'année prochaine, d'autres peut-être des centaines de millions, mais on sera très loin du compte. Les vaccins, si on en a, seront rares. Et vous le savez, ce qui est rare est cher. Et c'est pour ça que l'on espère non pas trouver un vaccin, mais au moins 4, 5, 6 différents pour que personne n'ait un monopole et puis pour multiplier les possibilités de fabrication. L'OMS a organisé il y a 15 jours une grande réunion avec des chefs d'État pour parler de cette future distribution qui devrait être équitable. Mais manque de chance, ni les États-Unis ni la Chine ne s'étaient déplacés pour cette réunion.
Et les enjeux financiers, alors eux, sont colossaux.
Évidemment, on investit actuellement des milliards de dollars en espérant en gagner encore plus. La petite entreprise américaine Moderna, dont on parlait tout à l'heure avec son ADN modifié, a vu sa valeur en bourse exploser depuis l'annonce de ses essais. Elle vaut aujourd'hui autant par exemple que Renault, et son PDG qui est un Français, Stéphane Bancel, a déjà fait fortune avant même d'avoir vendu un seul médicament. Mais attention, parce que tout est possible avec ce virus très 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 mystérieux. S'il devait disparaître par exemple avant que le vaccin soit prêt, eh bien tout cet argent aurait été investi pour rien.
Merci, c'est passionnant.
C'est passionnant.
Merci Nicolas. Il est 7h57.